Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal de 8h avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Allez, un espoir de vaccin et encore beaucoup de questions ce matin.
A-t-on cette fois des raisons de se réjouir? Qui serait servi en premier? Nos réponses dans ce journal. À la une également, le chômage qui s'envole au troisième trimestre à 9%. Et puis, si on votait par Internet au régional de mars, c'est l'idée du président de la région Bretagne, vous l'entendrez.
RTL Matin.
Avant de voir avec Odile Pouget quand on pourra espérer bénéficier de ce fameux vaccin dont on parle tant depuis hier, arrêtons-nous d'abord sur ceux qui en sont à l'origine. À l'origine, c'est même une histoire d'amour d'ailleurs, puisque c'est un couple. Un couple d'Allemands d'origine turque dont le laboratoire BioNTech concentre aujourd'hui les espoirs du monde entier. Blandine Milsan.
Lui s'appelle Uğur Şahin. Il est arrivé en Allemagne à l'âge de 4 ans avec sa mère pour rejoindre son père qui travaillait dans les usines automobiles Ford à Cologne. Elle, Özlem Türeci, est la fille d'un médecin turc venu s'installer dans le nord de l'Allemagne. Tous deux veulent devenir très tôt médecins. Ils vont se rencontrer à la clinique universitaire de Homburg dans la Sarre. Lui est tellement passionné par la médecine que le jour de leur mariage, il va faire un tour au laboratoire avant de se rendre à l'état civil. Tous deux sont connus pour être des pionniers de l'immunothérapie dans le traitement contre le cancer, cette technologie qui doit permettre aux malades de développer ses propres défenses immunitaires contre la tumeur. Dès le mois de janvier, les deux chercheurs décident cependant de travailler sur ce nouveau virus chinois car ils perçoivent déjà le risque de pandémie. Au printemps, leur PME a développé 20 candidats vaccins, l'un d'eux restera en course et va pouvoir bénéficier de la force de frappe du géant américain Pfizer. Les deux scientifiques, issus de l'immigration turque, sont entre-temps devenus milliardaires. Leur PME BioNTech, 1500 salariés, a d'ailleurs la bonne adresse puisqu'elle est située 12 rue de la Mine d'Or.
Blandine Milsan, l'action BioNTech s'est d'ailleurs envolée hier à la bourse de New York, même enthousiasme des marchés pour le titre de Pfizer. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Alors, on le rappelle, ce vaccin annoncé avec tambour et trompette en est encore aux essais. L'espoir reste à confirmer, mais on commence à s'organiser. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé vient de publier un protocole de vaccination qui, quand obligatoire ou pas, on a déjà des réponses.
Alors, pour qui? Eh bien, en priorité pour les personnels de santé, qui évidemment sont en première ligne, les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie du fait de leur âge ou de leur état de santé, si par exemple elles souffrent de diabète ou d'hypertension, mais aussi pour des professionnels qui assurent le maintien d'activités essentielles au fonctionnement du pays. On peut imaginer, par exemple, que ceux qui travaillent dans l'alimentation, ceux qui assurent le transport des marchandises ou celui des voyageurs, soient ainsi prioritaires. Pas question, évidemment, de vacciner tout le monde dans un premier temps. Pas question non plus de rendre cette vaccination obligatoire. Mais pour que celle-ci soit efficace, dit la HS, il faut mobiliser les médecins de ville, les infirmiers, les pharmaciens en qui les usagers ont confiance. Confiance et transparence, ce sont un peu les maîtres mots pour emporter l'adhésion de la population. Pas question de refaire les mêmes erreurs qu'en 2009 face à l'épidémie de grippe H1N1 à l'époque. La stratégie avait été de vacciner très rapidement 75% de la population à marche forcée. Résultat, une couverture vaccinale de moins de 10%.
Merci beaucoup Odile Pouget et on salue Michel Simès en studio avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour.
Je vous pose simplement la question. L'euphorie autour de ce vaccin est-elle bien raisonnable?
Non, elle n'est probablement pas très raisonnable. Je pense que cette annonce, elle est aujourd'hui plus économique que véritablement médicale. D'abord parce que des vaccins en phase 3, il y en a d'autres. Ensuite, la phase 3 pour un vaccin normal dure entre 3 et 5 ans. Alors, je veux bien croire que le processus va être accéléré vu l'urgence qu'il y a aujourd'hui, mais on ne va pas passer de 5 ans à 2 mois. Et puis, ce qui est intéressant, et j'essaierai de vous l'expliquer tout à l'heure, c'est cette histoire d'ARN messager, cette nouvelle technique pour mettre au point le vaccin. J'ai dû me remettre le cerveau un peu à l'endroit en revoyant mes études de médecine de première année, parce que c'est un peu compliqué, je vous explique ça tout à l'heure.
Vous revenez nous parler plus longuement donc de ce vaccin dans une dizaine de minutes sur RTL pour votre rendez-vous quotidien. Il est 8h03, c'est le directeur général de la santé Jérôme Salomon qui le dit, le pic de l'épidémie est devant nous.
Le nombre de morts de la pandémie va donc continuer à augmenter dans les prochains jours en France, plus de 550 victimes hier, et c'est dans ce contexte que plusieurs syndicats d'enseignants appellent aujourd'hui à faire grève. Ils ne s'estiment pas assez protégés contre l'épidémie. Pourtant, pas de quoi s'alarmer pour leur ministre Jean-Michel Blanquer. Écoutez, c'était vendredi sur RTL.
Aujourd'hui, vendredi, on est à 3528 élèves qui ont un test positif et 1165 personnels. Vous voyez, à rapporter sur 12 millions d'élèves et 1 million de personnels. Donc, ça reste un chiffre maîtrisé, si je puis dire.
Un chiffre maîtrisé, 0,1% des personnels de l'éducation nationale touchés vendredi par le coronavirus en France. Chiffre donné donc par le ministre de l'Éducation nationale. Et il y a aussi cette crainte chez certains parents, crainte autour du port du masque, désormais obligatoire, vous le savez, dès 6 ans. En Isère, à Miribel-les-Échelles, une famille a même décidé de retirer ses enfants de l'école. Écoutez ce reportage de Serge Puyot.
On va travailler sur les longueurs, la Louane. Si on dit 100 cm, ça fait combien de mètres ?
1 mètre.
Très bien.
Louane, 8 ans, et Loïse, 7 ans, ont désormais comme maîtresse leur maman, qui a décidé de les retirer de l'école du village pour leur éviter de porter un masque. Car même si les médecins estiment que cette mesure est sans danger pour les enfants, Claire, elle, pense qu'il peut y avoir des risques.
Le manque d'oxygénation, sachant que pour le cerveau, c'est important d'avoir un bon taux d'oxygénation. Le risque d'une hypercapnie, c'est-à-dire d'un taux de dioxyde de carbone trop important dans la respiration, sachant que c'est ce qu'on rejette. Du coup, là, on le re-respire, donc on a préféré choisir ce chemin.
Et Claire Beltrandeau considère que la déscolarisation de ses enfants est tout à fait légale.
Nous avons contacté la directrice de l'école. Elle a officiellement envoyé un certificat de radiation. La loi nous donne le droit, en fait, de faire l'instruction libre à la maison, donc c'est un droit législatif.
L'inspecteur de l'éducation nationale, la mairie ont également été prévenus et à ce jour, personne n'a dit à cette famille qu'elle était hors la loi.
Voilà, reportage de Serge Puyot, Sophie Orange. Alors, le masque, dangereux ou pas ?
Il faut être clair, net, précis, sans s'appuyer sur des rumeurs et des fantasmes. Aucune étude scientifique ne montre un quelconque danger du masque sur les enfants et les adultes d'ailleurs. L'INSERM avait publié une revue de détails à la fin de l'été, elle est toujours valable. Les masques sont conçus pour être portés longtemps sans aucun risque. Même réponse de la Société française de pédiatrie. Affirmer que les masques sont dangereux, c'est de l'ordre de la fausse information et de l'irrationnel.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Sophie Orange.
Quand l'agglomération de Douai vient au secours des commerçants qui ne peuvent plus payer leur loyer, le président de l'agglomération.
C'est sans limite de montant. Nous avons des recettes qui nous permettent de le faire. L'État ne peut pas tout faire.
Explication dans un affaire.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Le gouvernement va aider encore un peu plus les propriétaires bailleurs à renoncer au paiement du loyer de novembre.
Beaucoup ne jouent pas le jeu, alors la prise en charge par l'État du montant sous forme de crédit d'impôt pourrait passer de 30 à 50% d'après les infos de RTL. Et les expulsions de commerçants pourraient même être interdites pendant 2 ans. En attendant, dans la région de Douai, dans le Nord, l'agglomération a décidé de prendre elle-même en charge ses loyers. Franck Hanson.
Déjà mobilisés pour préserver les petits centres-villes, ces élus douaisiens estiment qu'il vaut mieux agir maintenant pour sauver ces commerces ou artisans privés de recettes. Christian Poiré est le président de l'agglomération.
Il ne faut pas attendre que ces commerces demain mettent la clé sous la porte et se dire on aurait dû les aider. Donc on prend en charge la totalité des loyers pendant la durée du confinement. C'est sans limite de montant. Nous avons des recettes qui nous permettent de le faire. L'État ne peut pas tout faire.
L'aide sera directement versée aux professionnels. Un coup de pouce appréciable pour Caroline Delautre, fleuriste qui limite les dégâts avec quelques livraisons.
Au niveau des charges, elle va quand même soulager.
Quand on dit à la fin du mois, bon, je peux payer mon loyer, c'est déjà énorme. Il y a une énorme perte, au moins 90-95% de perte.
Au moins, ce n'est pas un prêt qu'il faudra rembourser, confie Nicolas, restaurateur en centre-ville.
C'est une aide équitable pour tous les commerçants douaisiens. Non, ce n'est pas du luxe. L'État a fait des aides, les premières, il y avait des critères de sélection. Bah, la BPI, c'est bien, mais il faudra rembourser.
Et c'est à signaler dans les recettes qui serviront à aider ces commerçants. Il y a les impôts versés à la collectivité par la plateforme Amazon implantée dans le Douaisis.
Franck Hanson, le taux de chômage en forte hausse au troisième trimestre d'après les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Il a bondi de 1,9 points, c'est 9% de la population active en France qui est désormais au chômage.
Question, les élections régionales auront-elles lieu en mars ? La question n'est toujours pas tranchée.
En cas de nouveau confinement ou si l'épidémie se poursuit d'une manière ou d'une autre, il sera bien difficile de faire campagne et de mobiliser les électeurs. Alors, il y a cette proposition du président social de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, il demande l'autorisation du vote en ligne.
On voit bien qu'aujourd'hui, nous avons besoin de changer nos méthodes. Vous payez vos impôts en ligne, vous payez vos amendes en ligne. Je pense qu'aujourd'hui, les outils qui ont été créés pour permettre cette administration en ligne sont arrivés à un bon niveau de maturité. Le secret du smartphone est tout aussi important que le secret de l'isoloir. Et pour notre jeunesse, pour celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans des vies complètement réorganisées au regard de nos manières de vivre, mais aussi du Covid, eh ben, il est peut-être temps de franchir un cap. Je n'oublie pas qu'une autre partie de notre population souhaite bien entendu conserver ce moment fort de notre vie démocratique et de se rendre dans le bureau de vote et de passer par l'isoloir. Mais il y a la possibilité de mixer les deux.
Voilà, propos recueillis par Jacques Serret, c'est une idée, on verra si elle sera suivie par le président Jean-Louis Debré qui s'occupe de cette question aujourd'hui. À l'étranger, la colère des Arméniens cette nuit après l'accord de cessez-le-feu signé par leur premier ministre qui consacre la victoire militaire de l'Azerbaïdjan. Les troupes arméniennes rendent les armes après un combat de près de 2 mois dans l'enclave indépendantiste du Haut-Karabakh. Et puis en football, le non-NON de Noël Le Graët a l'idée de faire une Ligue 1 à 18 clubs. Ce n'est pas le bon moment, dit le président de la Fédération française dans l'équipe ce matin. Le débat a été relancé ce week-end par le nouveau président de la Ligue, Vincent Labrune, qui trouve que 20 clubs, c'est trop et que ça tire le niveau moyen vers le bas.
On termine avec l'histoire du jour, ça m'a l'air gratiné.
Vous riez déjà. Une transplantation cardiaque version Bénil, aux États-Unis. À Los Angeles, l'hélicoptère qui transportait le précieux organe a d'abord raté son atterrissage sur le toit de l'hôpital, puis l'infirmier venu le récupérer a ensuite trébuché au sol, laissant s'échapper le colis. Mais tout s'est bien terminé, rassurez-vous, puisque le cœur a pu arriver sain et sauf jusqu'au bloc opératoire et être greffé avec succès.
Bon, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis très, très amateur de ce genre d'informations. C'était le journal de Jérôme Florin.
Yves Calvi, RTL Matin, 7h-9h30.
On va voir maintenant ce qui se passe du côté des fausses informations, des fake news, à 8h.